Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour. Nous avions, dans le premier épisode consacré à l'affaire Godard, 10 ans après la fin de l'instruction en septembre 2012, laissé le docteur Godard au départ du port des Sablons. C'était le 1er septembre 1999. Ce mercredi-là, la mer était belle et le ciel tout bleu, quand le docteur, accompagné de ses 2 enfants, sans qu'on sache encore aujourd'hui si leur mère, la femme du docteur Marie-France Godard, les accompagnait, donc le docteur larguait les amarres depuis le port de Saint-Servan à l'ombre des fameux remparts de Saint-Malo. Le jeudi 2 septembre, il était contrôlé en mer par les douaniers. Le dimanche 5 septembre, alors qu'il était censé rentrer au port au terme de sa petite croisière familiale pour laquelle il avait loué le voilier Nick, on perdait définitivement sa trace. Le 9 septembre, suivant l'annonce de sa disparition, les gendarmes débarquaient au domicile des Godard à Tilly-sur-Seulles, dans la jolie campagne du Bessin, entre Caen et Bayeux. Je vous ai raconté dans le précédent épisode comment et dans quelles circonstances les gendarmes arrivés sur place, accompagnés du maire de la commune, ont découvert à l'intérieur de la chambre à coucher des Godard des traces de sang appartenant à Marie-France, essuyant sur plusieurs centimètres d'épaisseur le matelas du lit conjugal. J'ai rencontré d'ailleurs quelques années plus tard un agent immobilier chargé de faire visiter cette maison qui avait été alors mise en vente. Il s'en souvenait encore, avait eu la frousse de sa vie. Ce jour-là, une porte sans doute poussée par le vent avait claqué soudainement. L'agent immobilier s'était mis à imaginer, m'avait-il dit, que le fantôme d'Yves Godard hantait encore les lieux. À propos de fantôme, il en est un bien réel. C'est le bateau qu'avait loué le médecin pour faire sa prétendue croisière. Il n'a jamais été retrouvé. On a perdu sa trace et aucune épave n'a pu être signalée et encore moins, donc, remontée à la surface de l'eau. Un voilier qui disparaît en Manche, quelque part entre Saint-Malo, la côte nord bretonne et les îles anglo-normandes, ce n'est tout de même pas si banal. Et ce qui n'est pas banal non plus, c'est qu'aucun morceau du navire n'a été retrouvé, pas le moindre élément de structure, coque, mât, qui puisse mettre les enquêteurs sur une piste. À l'inverse, ce qui a été retrouvé, c'est une multitude d'objets et de matériel dont on a eu au fil du temps l'impression qu'ils étaient comme les cailloux de l'histoire du petit Pousset. Et c'est ce chemin, parsemé d'indices, dont je vais vous raconter aujourd'hui, pour ce second épisode, l'intrigue étonnante.
Podcast by Tendance Ouest.
Nous sommes la première quinzaine de septembre. La disparition de la famille Godard, parents et enfants, prend à ce moment-là l'allure d'un affreux jeu de piste, une sorte de cluedo de la mer. Les découvertes se multiplient, les rebondissements aussi. Le 5 septembre, alors que le voilier donc est censé, comme je vous le disais, être rentré au port des Sablons, un pêcheur signale au large de l'île de Bas, dans le Finistère, la présence de l'annexe de ce navire, est visiblement laissée à l'abandon. Il s'agit en fait de l'annexe, donc du Nick, le voilier utilisé par Yves Godard. À l'intérieur, coincé sous une latte de bois, un blouson. Une des poches renferme son achéquier, au nom du médecin. Le vêtement a été visiblement placé dans l'annexe, de telle sorte qu'on puisse le repérer facilement. Il est étonnant que cette annexe ait été retrouvée à cet endroit. C'est assez loin de la zone où le voilier a été vu pour la dernière fois, mouillant en effet dans la baie de Saint-Brieuc. le 16 septembre, soit 11 jours après le début des recherches, c'est une autre découverte qui va faire parler. Un gilet de sauvetage d'Unique est retrouvé, lui, au large de Cherbourg, dans la zone dite des Casquets, à la perpendiculaire de la pointe de la Hague, sur la côte ouest du Cotentin. On a enfoui à cet endroit-là de multiples déchets dans une fosse sous-marine très profonde. Une semaine plus tard, rebelote, nouvelle découverte surprenante. Le radeau de survie du Nick est lui récupéré sur une plage de la côte sud de l'Angleterre. Visiblement, ce canote n'a pas servi. Il a juste été gonflé, puis mis à l'eau, mais apparemment pas dans des conditions d'extrême urgence. Les enquêteurs remarquent que le toit du radeau a été arraché et que l'embarcation a visiblement été traînée. C'est du bricolage, disent certains. Étrange aussi, le fait que le radeau ait été récupéré à cet endroit. L'étude des courants laisse à penser que les objets retrouvés, le radeau, le gilet de sauvetage et l'annexe, ont été en fait éparpillés à dessein dans des endroits différents. On cherche visiblement à brouiller les pistes. Courant octobre, une autre découverte donne une toute autre dimension à l'affaire. Et cette découverte, c'est celle d'une lettre anonyme. Oui, une lettre anonyme. Elle a été postée dans la région de Falaise et indique aux gendarmes savoir où se trouve le médecin Canet. Il serait en fait toujours vivant avec ses deux enfants et séjournerait du côté de l'île de Man. C'est sur la côte ouest du Royaume-Uni. Sur place, le responsable d'un hôtel qui est posé en centre-ville, tout près du débarcadère des ferries, confirme qu'il a bien croisé le docteur et ses enfants. D'autres témoins prétendent aussi l'avoir vu, toujours avec ses deux enfants. La presse fait état de ces témoignages et remarque d'ailleurs, au passage, qu'à chaque fois, chaque témoin entendu ne parle que du docteur accompagné de deux enfants. Une petite fille et un petit garçon, mais jamais de sa femme. Marie-France Godard, elle, n'apparaît nulle part. L'avocat de la famille, d'ailleurs, de Marie-France Godard, remarquera justement qu'aucune pièce réelle, aucun justificatif de paiement, aucun mouvement financier enregistré ne vient étayer cette thèse de la présence du médecin, et que ce ne sont visiblement que des impressions visuelles. N'empêche, la lettre du corbeau, on parle d'une femme, mais on ne saura jamais qui a écrit cet étrange courrier, est particulièrement troublante. Une deuxième est reçue par les gendarmes et elle l'est encore un peu plus troublante. Le 21 octobre 1999, soit plus d'un mois après la disparition du médecin et de sa famille, le nouveau courrier, toujours anonyme, affirme que le docteur séjourne dorénavant sur l'île Lewis au nord de l'Écosse. Sur place, l'agent d'une compagnie maritime dit même lui avoir vendu un billet de transport aller-retour valable 5 jours pour se rendre sur une autre île, encore plus au nord, et dont la situation géographique peut paraître stratégique. De là, on peut en effet rejoindre facilement l'Islande au beau milieu de l'Atlantique Nord, point de passage pour se rendre aisément au Canada, puis aux États-Unis. La recherche du docteur Godard prend dès lors une curieuse allure. Les enquêteurs français se rendent immédiatement sur l'île Lewis, mais sont consignés en fait dans leur chambre d'hôtel. Un défaut de procédure les empêche de pouvoir mener leurs investigations sur le terrain. On croit rêver. Et pourtant, au même moment, alors que ces enquêteurs français étaient confinés dans leur hôtel, il se dit que le médecin, lui, était encore sur l'île. Un mandat d'arrêt international a été lancé. Une information est ouverte contre le docteur Godard. Interpol diffuse la fiche du médecin Canet dans plus de 150 pays à travers le monde. Il est recherché pour meurtre. Des investigations sont menées tour à tour à Madère pour vérifier si ses comptes n'y seraient pas. En Crète, où son bateau aurait été aperçu, et même en Floride, où un témoin digne de foi dit l'avoir aperçu. En janvier 2000, ce n'est pas le docteur qu'on aperçoit, mais son sac de voyage. Il est récupéré au fond de l'eau dans les filets d'un pêcheur au large de l'île de Ba, pas loin de l'endroit où l'annexe du bateau, le Nick, avait été retrouvée 4 mois plus tôt. À l'intérieur de ce bagage, des affaires de la famille, plusieurs vêtements, mais aussi les permis de conduire d'Yves et de Marie-France Godard, d'échiquier, une paire de jumelles et même un marteau. La découverte sera suivie d'une autre, celle-là très macabre. En juin 2000, un crâne d'enfant est remonté d'un filet de pêche dans la baie de Saint-Brieuc, pas très loin de l'endroit où le voilier avait été aperçu au mouillage, et l'analyse le confirme, il s'agit du crâne de la petite Camille Godard, 6 ans. Peu de temps avant, au trait de chalut précédent, un crâne du même gabarit avait été remonté, mais aussitôt rejeté à la mer. Peut-être était-ce celui du petit frère de Camille, Marius, 4 ans, mais on ne le saura jamais. Quelques mois plus tard, des promeneurs découvrent dans la région de Landrieux et de Saint-Jacques-de-la-Mer, sur la plage des Ébiens, à même le sable, des cartes de crédit et autres cartes professionnelles au nom d'Yves Godard. Le secteur est proche de celui où le médecin avait été contrôlé, souvenez-vous, par les douaniers lors de son deuxième jour de navigation. C'est étrange. Visiblement, ces cartes retrouvées par hasard sur la grève n'ont pas séjourné longtemps dans l'eau. Elles sont quasi intactes. Les enquêteurs en sont à demi persuadés. Quelqu'un ou quelqu'une les a mis volontairement sur le sable, mais pourquoi? Dans quel but? Quelques années plus tard, c'est la carte vitale du médecin qui réapparaît. Même constat, elle est quasiment intacte. En septembre 2006, soit 8 ans après le début des recherches, l'affaire Godard connaît un début d'épilogue. 2 os de tibia et de fémur sont repêchés, toujours au large de l'île de Bas dans le Finistère, près de Roscoff, là où le sac de voyage avait été repêché. Il s'agit cette fois des os du fémur et du tibia du docteur Godard. 1 an plus tard, le maire de Lingère, une petite commune voisine de Tilly-sur-Seule, est alerté. On aurait retrouvé dans la décharge du cimetière communal des ossements humains. C'est peut-être ceux de Marius et de sa mère, Marie-France. En fait, pas du tout. C'est une fausse alerte. Les ossements n'appartiennent pas au Godard. Il faudra attendre la fin des recherches et des investigations pour qu'en septembre 2012, comme je le disais lors du précédent épisode, le juge d'instruction chargé de l'affaire rende une ordonnance de non-lieu. Elle sera suivie en 2015 par l'annonce officielle de la mort de Marie-France Godard et de Marius Godard, considérés comme décédés par la justice française. Aujourd'hui, seul le parquet aurait pu rouvrir le dossier avant 2022 sur la base d'un témoignage solide. Mais à l'heure où je vous fais ce récit, ce n'est toujours pas le cas.
Podcast by Tendance Ouest.
Une question se pose en filigrane de toutes ces histoires et comme je vous le racontais dans l'épisode précédent. Que s'est-il réellement passé entre Yves Godard et son épouse? Y a-t-il eu entre eux une dispute qui a tout déclenché? Le docteur Godard, poursuivi par le fisc, acculé par les dettes, voulait-il refaire sa vie en même temps qu'il recherchait à récupérer son argent placé sur des comptes offshore, on parle de 400 000 euros. Marie-France Godard s'était-elle opposée à ce départ en mer, à cette fuite organisée? Était-elle même au courant de ce que tramait son médecin de mari? On retrouvera au cabinet l'agenda du docteur, et c'est troublant. sur le planning, censé être géré par Marie-France Godard elle-même, qui prenait les rendez-vous des patients, ont été visiblement ajoutés au crayon à papier des noms fictifs. Le docteur les a-t-il lui-même ajoutés pour faire croire à sa femme à un scénario bidon qu'il avait préparé de longue date? On peut s'interroger. Et question principale derrière tout cela. D'où viennent les traces de sang retrouvées tant dans la maison de Tilly-sur-Seule qu'à l'intérieur du combi Volkswagen qu'on a retrouvé sur le parking des Bas-Sablons à Saint-Servant? On y revient et je repose la question. Y a-t-il eu une dispute violente entre le mari et son épouse au point d'avoir entraîné la mort violente de la femme du docteur? On peut en effet s'interroger. Dans la nuit qui a précédé le départ du docteur Godard au matin du 1er septembre au volant de son combi Volkswagen, il a été rapporté que certains voisins auraient entendu ronfler le moteur du véhicule. Le docteur est-il sorti en pleine nuit? Et si oui, pourquoi faire? Et si oui, serait-ce pour dissimuler quelque part dans la campagne le corps de son épouse qui aurait succombé au coup qu'il lui aurait porté? À cette époque, en 1999, l'autoroute des estuaires, l'A84, était en pleine construction. Certains ne sont pas loin de penser que le médecin aurait pu dissimuler le corps de sa femme dans les gravats du chantier. Quel était l'état des relations du couple Godard à ce moment-là? On sait aujourd'hui, par certains témoignages parus dans les journaux, que Marie-France Godard était une personne sensible, certains disent même fragile, et qu'elle suivait une psychanalyse. Son mari aurait d'ailleurs retrouvé un carnet intime de son épouse dans lequel elle écrivait ses fantasmes à l'égard de son psy. Le couple, a-t-il été rapporté, battait de l'aile. De tout cela et de toutes ces hypothèses, nous n'avons pas eu confirmation. Et cela reste évidemment des suppositions qu'aucun élément du dossier ne vient à ce stade confirmer. Il y a tout de même, un élément troublant et dont on est sûr, puisque ça a été rapporté. Marie-France Godard, la veille du départ de son mari pour Saint-Malo, aurait passé un coup de fil à l'une de ses filles née d'une précédente union. Dans cette conversation téléphonique, rien ne laisse à penser que la situation entre elle et son mari est en train de dégénérer. Elle semblait au contraire très calme et n'a fait aucune allusion au projet de départ vers Saint-Malo, c'est en tout cas ce qui a été dit. Alors, ce sang retrouvé au domicile du couple. Sur le mur recouvert d'éclaboussures et sur le matelas jusqu'à plusieurs centimètres d'épaisseur, ce sang qui est bien celui de Marie-France Godard, comment est-il arrivé là, donc à plusieurs endroits de l'intérieur, dans l'intérieur de la maison de Tilly-sur-Seule? Cette question, elle revient en boucle lorsqu'on évoque l'histoire. Elle revient en boucle comme reviennent en boomerang des tas et des tas d'interrogations et de suppositions. Pêle-mêle, les lettres du corbeau dont l'identité n'a jamais été retrouvée, ses cartes professionnelles, elles découvertes et récupérées sur le sable du côté de Saint-Jacques-de-la-Mer, l'annexe du voilier, le gilet de sauvetage, le radeau de survie retrouvé en mer et sur les côtes, etc. etc. Tout cela fait beaucoup pour un seul homme, une même famille. Tout cela fait beaucoup et c'est pourtant le nœud de toute cette histoire qui aura produit quelques 80 commissions rogatoires et des milliers et des milliers de pages de procédures. Le dossier Godard pèse aujourd'hui plusieurs tonnes au terme de toutes ces années d'instruction. Un jour de septembre 1999, donc, un médecin, ses deux enfants et peut-être son épouse partaient en direction du port de Saint-Servant. Ce jour de septembre 1999 restera comme la pierre angulaire de cette tragédie autour d'un voilier fantôme auquel le nom d'Yves Godard est lié à tout jamais. À bientôt.
Podcast by Tendance Ouest.